Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le dernier numéro de la saison pour Mélomanie, avant la reprise de notre grille normale à la rentrée de septembre. Et chose promise, chose due, nous allons le consacrer entièrement à la programmation 24-25 de l'Opéra National du Capitole. La saison précédente s'est terminée il y a 10 jours avec l'ultime représentation de la belle production d'Eugène Onéguine le 2 juillet. Un nouveau succès public, un de plus pour l'établissement que dirige Christophe Gristy, notre invité du jour, que je salue et remercie d'avoir accepté de nous présenter la programmation qu'il a conçue pour 2024-2025. Elle est comme d'habitude très riche avec de nombreuses nouvelles productions et même une création mondiale. Je n'anticipe pas, nous allons y revenir dans le détail avec lui. Je salue aussi notre monsieur opéra Mélomanie, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tout le monde est en place, c'est parti pour notre rubrique Agenda Opéra 24-25.
Mélomanie, l'agenda.
Bienvenue également à vous deux, merci d'être fidèles au rendez-vous. La saison 23-24 vient donc tout juste de se terminer. Je propose qu'on en fasse un rapide bilan avant de parler de la prochaine. Christophe Gristy, non seulement l'élan des dernières années se confirme, mais j'ai même l'impression qu'il s'amplifie avec des salles de plus en plus souvent combles, de grands succès publics et de très bons retours critiques, ma foi, pourvu que ça dure.
Absolument. Les planètes sont alignées pour la maison, c'est... donc je m'en réjouis beaucoup, et en effet, pourvu que ça dure. Et nous faisons tout pour.
Ce qui est frappant aussi, c'est que même des propositions a priori peut-être moins faites pour le grand public, comme le retour d'Ulysse en sa patrie de Monteverdi, eh bien, ont trouvé leur public, justement.
Oui, ou La Femme sans ombre.
La Femme sans ombre aussi.
Qui n'est pas,
c'était pas gagné d'avance,
mais qui a fait vraiment un tabac. C'est là qu'on voit aussi donc, la vitalité d'une maison et le rapport
la confiance du
public. Et je dois dire, ça, c'est quelque chose qui nous touche et nous motive énormément.
Et c'est très réconfortant,
oui,
pour la suite.
Absolument.
Allons-y maintenant pour la prochaine saison que vous avez dévoilée en avril. Christophe Gristy, on y retrouve à la fois, comme d'habitude, de grands classiques du répertoire et des œuvres qu'on a la moins l'habitude de voir sur scène. On note la forte présence de l'opéra baroque, c'est une particularité de cette programmation 24-25. Il y a de nombreuses nouvelles productions, des prises de rôle et donc une création mondiale. On va regarder tout ça dans le détail avec vous. Vous ouvrez la saison avec un grand classique, le très célèbre Nabucco de Giuseppe Verdi du 24 septembre au 6 octobre. Il y a 8 représentations qui affichent déjà quasi complet, si j'ai bien compris, tant la demande est grande. Voilà une belle rampe de lancement pour la saison et c'est une nouvelle production qui nous attend, mise en scène par l'excellent Stefano Poda, dont on se souvient encore de la très belle Rusalka.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, évidemment, le fait de faire cette production après Rusalka, je crois, a évidemment beaucoup motivé Stefano Poda pour faire un spectacle qui est une réussite extraordinaire que j'ai vu chez notre coproducteur, Lausanne. Mais c'est une production très spectaculaire. Nous la faisons avec un très grand chef d'orchestre en plus. Donc ça, j'en suis heureux. Giacomo Sacripanti, qui est sans doute un des chefs qui comprend le mieux cette esthétique, qui est une esthétique très étrange. C'est le jeune Verdi. C'est une musique assez sauvage, barbare, violente. Moi, c'est un ouvrage que j'adore parce que c'est vraiment un ouvrage assez fou, où le cœur, comme on sait évidemment, puisqu'il symbolise les différents peuples, le cœur a une importance extrême, avec évidemment au sommet ce fameux cœur des esclaves qui est l'hymne italien en quelque sorte, l'hymne mondial.
Le second hymne italien en tout
voilà,
cas.
Voilà, et de ceux qui aiment la liberté. Et donc, c'est une œuvre très ramassée, très compacte, très dense. Et qui n'a pas été présenté depuis, je crois, une quarantaine d'années. Donc, c'est un retour important. Il y a 2 distributions. Au Capitole, je conçois jamais des distributions qui seraient l'une en dessous de l'autre, une grande et une petite, par exemple. C'est 2 distributions, je crois, très belles et un petit peu différentes, évidemment, de caractère. C'est toujours bien aussi. Voilà, donc 8 spectacles, en effet, qui sont déjà très demandés.
Alors, on va regarder d'un peu plus près la distribution. Robert, vous confirmez, il y a 40 ans qu'on n'a pas eu Nabucco au Capitole, à peu près.
Quasiment, la dernière. La dernière fois que Nabucco a été affiché, c'était lors de la saison 87-88. Je voudrais poser une question à Christophe Gristy, parce que donc il y a une double distribution, et dans cette double distribution, nous avons le plaisir de voir revenir Catherine Hunold pour le rôle infernal d'Abigail.
Oui.
Alors, c'est un rôle qu'elle compte mettre à son répertoire.
Ah bah j'espère,
à cette
parce que si
occasion.
Elle va le chanter, j'espère qu'elle le met à son répertoire.
Non, non, mais qu'elle compte.
Qu'elle comptait
oui, bien sûr,
depuis longtemps,
bien sûr,
peut-être.
Bien sûr. Ouais. Comme vous savez, les chanteurs se remettent en travail tout le temps et se remettent en cause tout le temps. Et ce grand soprano dramatique avec de l'agilité, et voilà, c'était, d'après ce que j'ai compris, une volonté de sa part et voilà. Une piste de travail de sa part. Donc voilà, nous l'attendons avec impatience. Et puis, en effet, deux barytons qu'on connaît quand même. Un petit peu déjà à Toulouse, mais qui sont l'un et l'autre extraordinaires. Un Albanais, un Russe, Gazi Mishketa et Alexei Isaïev, que nous avons lancé. Moi, je suis très fier d'avoir
en voilà un qui fait
lancé
partie
la carrière...
de la famille maintenant, un
oui.
petit peu, j'ai l'impression.
Et dont on a lancé la carrière mondiale. Donc, ça,
oui,
j'en suis très heureux. Ouais. Et qui est présent deux fois dans la saison avec Nabucco et le Hollandais.
Ça, on y viendra un peu plus tard. Donc, il y aura Yolanda Oyanet. Soprano espagnol.
Absolument.
En doublon, donc avec Catherine Hunold pour oui. Abigail. Même les rôles un peu secondaires, si on peut dire, c'est pas n'importe quoi. Il y a Jean-François Borras donc pour Ismaël, Nicolas Courjal et Soulkan Jayani en Zakaria. Soulkan Jayani, Robert.
Oui, on l'a déjà vu à Toulouse. Oui. Alors effectivement, discrètement,
oui.
dans des seconds rôles, et on pas peur ouais. des mots, mais immédiatement, quand on est un peu attentif au plateau, tout d'un coup, on entend une voix, même si les seconds rôles, parfois, ne sont pas très exposés au point de vue tessiture, etc. Mais on a immédiatement un timbre, une rondeur, une puissance de projection, une couleur. Et vraiment, moi, je suis très heureux ouais. de l'entendre dans un rôle quand même
oui,
d'importance.
C'est lui qui ouvrait Boris Godounov,
oui.
et de manière très impressionnante. C'est une très grande voix. Je suis heureux qu'il puisse accéder à un grand rôle qu'il a déjà chanté, d'ailleurs, à Tbilissi, au Capitole.
Bon, vous vous doutez que nos auditeurs n'attendent qu'une chose après cette présentation de Nabucco, c'est d'entendre son fameux chœur des esclaves hébreux. Alors pour éviter les fâcheries, je ne veux pas les décevoir. Voici Va Pensiero, le chœur des esclaves.
Oh.
Va Pensiero, le cœur des esclaves hébreux de Nabucco, dans une version dirigée par Riccardo Muti. Le célèbre opéra de Verdi ouvre donc la saison 24-25 du Capitole lors de 8 représentations du 24 septembre au 6 octobre. Bon, j'ai dit c'est quasi complet, mais pas tout à fait tout de même. Donc précipitez-vous si vous voulez avoir des places. Après ce lancement romantique italien, il y a un premier rendez-vous baroque et c'est même un double rendez-vous. Le 7 octobre, vous avez programmé Didon et Énée de Purcell. Puis 6 jours après, le 13, vous proposez Alcina de Francesca Caccini. Je précise que ces deux œuvres sont données en version concert. La forte présence de l'opéra baroque que j'évoquais tout à l'heure cette saison, est-ce que c'est une vraie volonté de votre part ou est-ce que c'est un peu dû au hasard en fait ?
Bon, il n'y a pas de hasard d'abord. Quand même. Et puis, est-ce que cette présence est si forte que ça ? Moi, je l'avais pas réalisé, mais vous faites.
Il y en a 3 sur les 6.
Ouais, mais il y a 2 versions de concert quand même, donc c'est pas, oui, certes, c'est pas la même.
C'est vrai,
c'est pas exactement la même activité.
Le même engagement, si on peut dire, mais voilà. Bon, tout de même.
D'abord, parce que c'est, personnellement, c'est un répertoire que je trouve aussi important que le reste, qui est quand même aussi un répertoire qu'on redécouvre depuis quelques décennies, oui, et qui est d'une richesse vraiment inépuisable. Et puis, c'est vrai que nos institutions, où il y a un orchestre, disons, moderne, ont eu tendance très longtemps à ne pas jouer des œuvres qui ont besoin d'un autre, d'un orchestre d'une sorte différente. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où le Jules César de Handel, on y viendra tout à l'heure, mais puisque vous posez la question sur l'opéra baroque, n'avait jamais été donné au Capitole.
Oui, alors aussi étonnant que ça puisse paraître.
Alors que c'est le plus célèbre des opéras de Handel, que c'est un chef-d'œuvre gigantesque, et le Didon Aîné a été donné une fois dans un contexte particulier, de même que nous avons fait les Monteverdi les dernières années.
Avec Il Gemelli.
Ça me semble des piliers du répertoire. Et pour le coup, l'Alcina de Caccini, là, est une découverte. Voilà.
Robert, Didon Aîné, c'était il y a longtemps aussi, la seule fois où ça a été donné au Capitole ?
Oui, il y a une quarantaine d'années également, oui, donc c'est ancien. Et c'était l'Académie d'Ambronay qui le donnait. En fait, c'était des étudiants, c'était bien, hein ?
Et puis, la vie musicale, aujourd'hui, elle est aussi organisée donc, entre les institutions et des ensembles indépendants. Et je trouve très important d'accueillir les ensembles indépendants, et nous avons nos ensembles permanents, le chœur, l'orchestre, le ballet du Capitole, mais d'accueillir aussi les ensembles qui font un autre travail sur d'autres répertoires et qui sont évidemment des ensembles de très très haut niveau. Et c'est vrai que l'année prochaine, nous en accueillons beaucoup. C'est une grande chance, puisque ça va du Concert des Nations avec Jordi Savall pour un ballet, ce qui est aussi un événement exceptionnel, à ses versions de concerts d'opéra baroque, à un concert de musique contemporaine autour de la création de Mantovani. Enfin voilà. Et je trouve que c'est très motivant d'accueillir des ensembles qui travaillent sur des domaines qui ne sont pas exactement naturellement les nôtres.
Robert, oui. Oui,
je rectifie, ça a été donné la dernière fois en 78, donc ça fait
oui,
près de 50
ans. Ah oui, c'est plus près de 50 ans que de 40, effectivement. Ouais, plus de 45 ans. Pour Didon et Aîné, superbe affiche là encore, Sonia Yoncheva dans le rôle de Didon. Et puis, vous faites venir pour la première fois, je pense, au Capitole, parce que c'est un ensemble de formations assez récentes, l'orchestre et le chœur de l'Opéra Royal de Versailles.
Exactement. Oui, c'est Laurent Brunner, le directeur de l'Opéra de Versailles, qui a fondé cet ensemble, puisqu'ils ont une activité, évidemment, de musique ancienne extraordinaire. C'est formidable ce que fait Brunner à Versailles. Donc, il a décidé, en parallèle aux ensembles qu'il a l'habitude d'inviter, dont en premier lieu, d'ailleurs, le concert spirituel d'Hervé Niquet, qu'on connaît bien aussi au Capitole, de fonder son propre orchestre. Et donc, je suis très heureux que justement, je crois que c'est leur première grande tournée.
Oui, je crois, parce que c'est 2022, hein, la formation de l'orchestre et du chœur.
Nous entendons très bien avec l'Opéra Royal de Versailles. On a fait ensemble Platé de Rameau. Et donc, j'ai tout de suite, évidemment, été ravi de leur proposition de venir, je crois, entre Madrid et Londres,
oui, parce
venir
que ça
à
tourne,
Toulouse
hein.
pour cette Didon.
Et avec Sonia Yoncheva.
Et avec Yoncheva, bien sûr.
Alors là aussi, les réservations, ça, ben ça oui. galope. Hein. Il va falloir se dépêcher pour ceux qui veulent voir Didon et Aîné et entendre, évidemment, Sonia Yoncheva. En même temps, Alcina, alors ça c'est le premier opéra qui a été composé par une femme à ma connaissance, donc Francesca Caccini. On est première moitié du XVIIe siècle, grande musicienne en son temps, hein, faut préciser, elle n'était pas, c'était pas quelqu'un qui était de marginal, loin de là. Et donc on va retrouver Emiliano González Toro et son ensemble Il Gemelli qui nous avait fait les Monteverni les saisons précédentes.
Absolument, donc je suis de près leur activité, ils sont vraiment spécialisés maintenant dans la musique du XVIIe siècle, donc c'est évidemment au premier chef Monteverdi. Vu la l'importance des œuvres, il est toujours indispensable vraiment de présenter, de représenter les Monteverdi. C'est quand même de là que découle toute l'histoire de l'art lyrique. C'est notre mission de service public, hein, de faire entendre ces œuvres qui sont vraiment le fondement de notre art. Donc c'est un chemin, un autre chemin, mais qui part de cette source de Monteverdi. Et nous sommes donc en effet dans les immédiats successeurs de Monteverdi et du début de l'histoire des théâtres, puisque les Monteverdi créent Poppée et Ulysse au moment où les théâtres deviennent publics et où on fait donc de l'opéra pour le public.
Robert, vous qui avez assisté au Monteverdi de Gemelli, c'était formidable. Hein.
Ah, formidable, oui, pour moi. C'est un énorme plaisir de découvrir. Moi, je vais découvrir cet opéra. Je ne le connais pas du tout. Mais en plus, avec cet ensemble Gemelli, je n'ai aucun doute sur le résultat.
Nous allons écouter Sonia Yoncheva dans un des airs les plus célèbres de Didon lorsque l'héroïne de l'opéra d'Henry Purcell se donne la mort. À la fin de l'acte 3, elle chante le poignant lamento « When I am laid in earth ». When I am laid in earth, air de l'acte 3 de Didon et Aîné, chanté par Sonia Yoncheva, qui sera donc Didon dans la version concert de l'opéra d'Henry Purcell le 7 octobre prochain, après le baroque, l'opéra contemporain, du 22 au 28 novembre, avec la création mondiale dont j'ai déjà parlé. Et là, je dois dire que vous avez fait très fort, puisque l'opéra en question, c'est Voyage d'automne de Bruno Mantovani, dont le livret est signé Dorian Astor. Alors, il s'inspire d'un fait un peu plus réel, le voyage de cet écrivain français à Weimar en octobre 1941, un épisode célèbre de la collaboration des intellectuels durant cette époque troublée. Dites-nous un peu plus, même si on ne peut pas tout dévoiler, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire d'abord sur la genèse du projet.
Alors, la genèse du projet, je veux dire, elle est très simple. C'est la volonté de Mantovani d'adapter un petit livre d'un historien qui s'appelle François Dufay, qui s'appelle « Voyage d'automne ». Donc, on a repris le titre et qui raconte ce voyage, en effet, de quelques grands écrivains français très établis, qui étaient des stars de la littérature française.
Ah, oui, oui.
Et qui sont encore des noms que nous connaissons tous bien, même certains ne sont plus lus, mais ce sont des noms qui sont dans notre mémoire collective. Et à l'invitation de Goebbels, alors c'était des congrès mondiaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement les écrivains français qui étaient invités, c'était des écrivains de beaucoup de pays.
C'est le congrès des écrivains de Weimar.
Voilà, ça, c'est ça. Et donc, de toute l'Europe, on faisait venir des sommités pour faire la propagande de l'Allemagne nazie. Donc, c'est un sujet qui le fascinait comme sujet d'opéra. C'est ça qui est important. Parce que nous sommes à la fois en pleine tragédie, à laquelle nous sommes encore complètement connectés, et en même temps dans une pantalonnade, parce que vous imaginez des écrivains en goguette dans des pays en guerre, invités par Goebbels pour faire de la propagande, et ils sont tous différents. Chaque profil, si on parle de Joindot, de Chardon, de Drieux-La Rochelle, chacun a ses raisons d'y être, et puis il se passe des choses entre eux aussi pendant ce voyage. Donc voilà, c'est une tragédie et un opéra bouffe en même temps. D'abord, c'est très cohérent par rapport aux deux premiers opéras de Mantovani, qui ont toujours interrogé, disons entre guillemets, la position de l'artiste face à la dictature et face au pouvoir plus largement. Donc c'est un nouvel épisode de cette interrogation. Donc voilà, il était absolument obsédé par ce livre, et donc je voulais vraiment qu'il écrive un opéra pour le Capitole, parce que c'est une écriture que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très charnelle, très sensuelle, très dramatique. Donc ça, c'est évidemment, c'est ça qui pour moi fait un opéra, et puis avec une science de l'orchestre qui est évidemment fabuleuse. Et puis l'idée était aussi de, moi ce que j'ai entrevu tout de suite, c'était aussi de réunir pour ces écrivains vraiment des grands chanteurs français qui puissent s'affirmer aussi théâtralement dans des rôles qui doivent être incarnés, parce que quand on incarne Drieux-La Rochelle ou Brasillach, ça veut dire quelque chose. Donc là, il fallait aussi des grands interprètes. C'est moi donc qui ai présenté à Bruno Mantovani Dorian Astor, qui est notre dramaturge, qui est le dramaturge du Capitole, qui est un écrivain et qui a déjà fait plusieurs livrets, donc il connaît cette écriture, ils se sont très bien entendus, ce qui m'a enchanté. Voilà, donc comment est né ce projet. C'était dans une autre vie, mais j'étais prof de lettres, donc tout ce qui touche aux écrivains, mais
On se doute bien que le sujet n'était pas indifférent non plus.
Voilà. C'est vrai qu'il y a 20 ans, j'ai beaucoup lu Joindot, par exemple. Et en tant qu'étudiant en littérature, je les ai évidemment tous lus. Je lis autre chose aujourd'hui, voilà. Mais c'est évidemment des gens qui sont très présents dans ma tête, parce qu'ils représentent une part...
Drieux, évidemment.
Une page essentielle de la littérature française.
Alors, Robert Brasillach, quoi qu'on pense du personnage, était aussi un très grand écrivain à l'époque. Il a écrit des livres, notamment sur le cinéma, qu'on peut encore lire aujourd'hui. Hein.
Bien sûr.
Bon, Joindot, vous l'avez cité. C'est celui qui a vécu, d'ailleurs, le plus proche. Il est mort en 1976, si ma mémoire est bonne. Donc après les autres, bon, Ramon Fernandez, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le père de l'académicien, de Dominique. Et puis donc il y avait Jacques Chardon, l'écrivain préféré de François Mitterrand, Abel Bonnard, André Fregnaud, on l'a dit, Pierre Drieux-La Rochelle, accompagné, alors pour les diligentés, si on peut dire, il y avait Gerhard Heller, qui était l'officier allemand chargé d'entretenir les relations avec les intellectuels.
Exactement, donc, qui était très francophile.
Enfin,
comme vous savez, c'est une histoire sans fin, ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous en avez aussi un écho étonnant dans Le silence de la mer de Vercors, où il y a ce militaire allemand qui est extrêmement francophile. Et Heller était extrêmement francophile. Mmh. Heller, qui était le chef de la censure, adorait les livres qu'il censurait lui-même, parce qu'il adorait la France. La culture française. Et comme on sait ensuite avec François Mitterrand à Vichy, etc., enfin, toute cette histoire a été un trouble et reste trouble encore dans la mémoire française.
C'est-à-dire que tous les témoins maintenant disparaissent les uns après les autres, donc ça va s'éloigner de nous, mais bon, c'est très bien, je trouve, de se replonger là-dedans. Moi, je suis très curieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, Robert Penavert, de découvrir cette création.
Moi, alors, pour rien vous cacher, le livre de Dufay auquel vous faites allusion, je me suis porté acquéreur il y a quelques jours, et donc ça va être ma lecture
de l'été,
parce qu'il est court, et c'est pas
une des lectures de l'été.
C'est pas un fort volume, mais une de mes lectures de l'été, de manière à pouvoir entrer plus pleinement dans le travail qu'aura fait Dorian Astor sur le livret.
Et évidemment, donc nous allons accompagner les représentations de tout un appareil, en quelque sorte, pour permettre à notre public de trouver très facilement l'information sur ces différents écrivains. Il y aura des conférences. Évidemment, on a, je ne sais pas si on peut le dire à la radio, mais je le dis, mais on a un partenariat très fort avec Ombre Blanche.
Avec
des conférences aussi, sur notre site. On fera aussi une conférence sur les écrivains à l'occupation, mais on le fera aussi sur les théâtres lyriques pendant l'occupation, avec un jeune chercheur qui a étudié la période de la collaboration, la période de la Seconde Guerre mondiale, à l'Opéra de Paris et au Capitole. Parce qu'il faut toujours balayer devant sa porte, quand même. Voilà, donc c'est des histoires absolument passionnantes. Et en effet, on sait très bien que la France a mis beaucoup de temps à vouloir regarder cette période en face. Et elle continue à être gênée par cette période.
Oh bah peut-être que ça aidera à comprendre un peu ce qui a pu se passer à l'époque.
Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un tribunal. Cet opéra n'est pas un tribunal.
C'est bien
de
le dire.
Il suit ce que Duras appelait au sujet de la... qui elle aussi a eu un rôle très particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'elle a appelé elle-même des aventures personnelles. Il ne faut jamais oublier que l'histoire est justement l'accumulation d'aventures personnelles.
Et puis l'intérêt aussi, c'est de voir les psychologies des uns et des autres et comment tout ça a pu fonctionner. Bon, Joindot, les défenseurs de Joindot ont dit oui, mais il y est allé parce qu'il était amoureux de Gerhard Heller. Voilà.
Alors vous avez, vous venez de donner un des ressorts de l'opéra.
Un parmi d'autres. un parmi d'autres. Voilà, donc Pascal Roffet à la direction et Marie-Lambert Lebihan à la mise en scène. Il y aura 4 représentations entre le 22 et le 28 novembre pour Voyage d'automne. Encore une nouvelle production du 24 janvier au 2 février avec les 7 représentations d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach dans une mise en scène d'Olivier Py. Elle va nous permettre de retrouver quelques têtes et voix connues très appréciées du public de l'Opéra National du Capitole, et il va y avoir avoir plusieurs prises de rôle pour les personnages principaux, Christophe Gresti.
Oh oui, bien sûr, oui, notamment Cyril Dubois pour le rôle d'Orphée. Là aussi, comme Nabucco, c'est une coproduction avec l'Opéra de Lausanne. Évidemment, quand on m'a proposé le projet, Offenbach, Olivier Py, Olivier Py a créé cette production juste après notre Boris Godounov. Au dernier jour de répétition de Boris, il s'était envolé pour Lausanne sans aucune transition. Et d'ailleurs, il y a dans le décor une allusion à Boris qui est assez amusante, puisque, étonnamment, Orphée aux Enfers ne rompt pas du tout avec la thématique qu'on a sur le peuple et le pouvoir depuis le début de la saison, puisque Orphée aux Enfers est bien une satire de la politique, enfin une attaque en règle de la politique avec évidemment Jupiter qui est ridiculisé pendant cet opéra et qui renvoie à Napoléon III mais qui renvoie je crois à tout pouvoir politique. Et donc c'est normal que Olivier Py, qui est tellement intéressé par ce sujet-là, se penche sur un opéra comme Orphée aux Enfers. Mais c'est un spectacle extrêmement joyeux, extrêmement divertissant, extrêmement drôle, je veux dire, parce que Py, comme on sait, est un mystique et un voyou, ce qu'on disait de Poulenc, on peut dire la même chose de Py, et il a le sens du musical, il en fait lui-même. Il a le sens du musical, il a le sens du rythme, et le spectacle est une folie furieuse.
C'est fait pour lui. Bien d'accord.
On a une belle distribution avec plein de formidables chanteurs français, Cyril Dubois, Marie Perbos, Mathias Vidal, Marc Scofoni, Rodolphe Briand, qui est toujours extraordinaire, et aussi dans des tout petits rôles, des grandes voix. Ça, je voulais absolument qu'il y ait des grandes voix pour Offenbach, parce que c'est de l'opéra, et que c'est encore mieux quand c'est très très bien chanté, et par de belles voix bien riches.
On aura d'ailleurs pas mal de chanteurs du cru, Anaïs Constant qui fera Diane, Céline Laborie, Junon, Lucille Verbizier, tout ça ce sont d'anciens et d'anciennes du conservatoire de Toulouse. Robert Pénavert, Orphée aux Enfers, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Oui, alors Orphée aux Enfers, je regarde toujours mes notes pour ne pas me tromper, ça fait 42 ans.
Ah bah décidément, toutes
voilà.
40-50
voilà,
ans.
Donc ça veut dire que très clairement, il y a des générations entières qui n'ont pas vu ces opéras au Capitole. Simplement pour dire que justement Christophe Grissi a abordé la distribution, et moi si vous permettez je tenais à souligner que dans cet Orphée aux Enfers, Offenbach parfois c'est pris d'une manière un peu trop légère à mon avis, et Christophe Grissi a mis quasiment les deux premiers rôles d'Idoménée.
Oui, absolument.
Bah oui.
Voilà.
Ouais.
Donc, il a mis Damante et Ilia, ouais, qui ne sont pas des petits rôles dans Idoménée.
Ah non.
Voilà.
Cyril Dubois sera Orphée et Marie Perbost sera Eurydice. On aura Mathias Vidal aussi, Aristée et Pluton. Magnifique distribution pour cet Orphée aux Enfers où il y a aussi une pièce fameuse connue de tous, le French Cancan, ce galop infernal dont je vous propose une version enregistrée par le chœur et l'orchestre du Capitole en 1978 sous la direction de Michel Plasson. Thank you. célèbre Galop infernal d'Orphée aux Enfers, une version enregistrée par le chœur et l'orchestre du Capitole en 1978 sous la direction de Michel Plasson. L'opéra de Jacques Offenbach est donc à l'affiche du Capitole du 24 janvier au 2 février pour 7 représentations. On retrouve du baroque pour le rendez-vous suivant du 21 février au 2 mars. Vous avez programmé, vous l'avez annoncé déjà, Jules César, l'opéra de Handel. Et pour l'interpréter, vous avez invité Les Talents Lyriques, l'ensemble dirigé par Christophe Rousset, que l'on n'avait pas vu dans la fosse du Capitole depuis une certaine production des Indes Galantes. Jules César, il fallait cette formation-là, c'est eux que vous souhaitiez avoir
Christophe Rousset, c'est pour moi un des grands interprètes de Handel. Donc, évidemment, nous nous connaissons depuis très longtemps, enfin, c'est pas du tout la raison. Mais c'est quelqu'un qui dirige ça avec un brio tout à fait extraordinaire. Et puis la beauté de l'orchestre est très très remarquable, la beauté des talents lyriques. Et c'est un ensemble, maintenant je ne sais plus, qui doit avoir 30 ans. Et qui ne cesse, je trouve, de hausser sa qualité d'exécution. Et tout ce que j'ai vu récemment des talents lyriques était toujours d'une beauté exceptionnelle. Après, donc en effet, je voulais vraiment faire Jules César au Capitole parce que ça n'avait jamais été fait et que c'est quand même un opéra enivrant. C'est une succession d'airs les uns plus beaux que les autres, avec des personnages absolument fabuleux. Enfin, quand vous avez sur scène Cléopâtre, Jules César, oui, Ptolémée, oui. Enfin, c'est que des grandes figures de l'histoire. Et puis avec cette inspiration shakespearienne de l'intrigue, c'est-à-dire cette cohabitation, comment on peut dire, enfin, ce voisinage permanent de la tragédie et de la comédie. Et là aussi, on parle de pouvoir. Hein. Donc dès que le pouvoir entre dans le sujet, il y a l'opéra bouffe qui réapparaît. Pour moi, enfin, c'est un des sommets de l'œuvre de Handel, ça c'est très clair. Donc je suis très heureux d'avoir pu coproduire cette production avec le Théâtre des Champs-Élysées et un certain nombre d'autres théâtres en Europe, puisque la production est passée par l'Opéra de Rome, par Leipzig, voilà, il y a eu beaucoup déjà de reprises, et ça arrive maintenant à Toulouse, et c'est les débuts d'ailleurs à Toulouse d'un metteur en scène important, Damiano Micheletto, qui vient pour la première fois ici, et avec, je crois, une distribution assez prometteuse, disons.
Ouais. 5 représentations avec Elisabeth Dechong, mezzo-américaine, hein, qui sera César, et Claudia Pavone pour Cléopâtre. Bon, Robert, c'est encore à pas rater, ça.
Non, de toute façon, le problème, c'est qu'il ne faut rien louper, parce que sinon, après, on le regrette, oui, tout à fait. Mais alors, par contre, la question que je me pose, je ne connais pas cette production, parce que j'ai vu plusieurs productions de Jules César. Certains optent carrément pour un côté assez comique, finalement. Oui. D'autres pour un côté plutôt tragique.
Là, on est plutôt sur le versant tragique, ce qui, moi, me convient très bien, avec des moments de parodie, en quelque sorte. Mais l'option est plutôt tragique, et c'est ce qui me plaît. Je n'aime pas du tout les productions de Jules César à la Gaudriole, avec des gags, etc. Moi, la première que j'ai vue ado était pleine de gags, ce que je n'avais pas compris. Et je trouve que c'est en complet contresens avec le texte. Cornelia vient sur scène avec la tête de son époux, Pompée, la tête dégoulinante de sens.
Oui, ça ne se rappelle pas à la franche rigolade,
voilà. Et donc, j'aime, et dans la démarche de Micheletto, qui est assez abstraite, hein, qui n'est pas du tout une constitution historique, qui n'a pas grand sens dans ce... On n'imagine pas trop, enfin, on n'a pas trop envie d'imaginer les pyramides, etc. Il a traité ça vraiment sur le bassin tragique, ce que je trouve très très bien. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé ça dans cette production.
Voilà, donc 5 représentations de Jules César de Handel du 21 février au 2 mars avec Les Talents Lyriques dirigés par Christophe Rousset, une reprise au début du printemps du 26 mars au 6 avril, celle de la production de Norma dans la belle mise en scène d'Anne Delbé, découverte au Capitole en 2019. Elle avait rencontré un grand succès public et critique à l'époque, et l'on se rappelle que Karine Deshaies y avait été une magnifique Adalgisa, et bien cette fois-ci, vous lui avez confié le rôle-titre, elle va interpréter Norma en alternance avec la même Claudia Pavone dont nous venons de parler, puisqu'il y a une double distribution, 8 représentations encore pour ce chef-d'œuvre de Vincenzo Bellini. Précisons que pour Karine Deshaies, ce n'est pas une prise de rôle en revanche.
Ah, pas du tout, non. Bah, de toute façon, moi, je ne suis pas obsédé par les prises de rôle.
Non.
Tu sais qu'il y en a beaucoup, mais au cabinet. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle. Et puis, en fait, pendant un an, Karine Deshaies va à peu près ne chanter que Norma. Elle vient de le chanter à Strasbourg. Et j'en suis très heureux. La saison prochaine, notre production, avant d'être reprise donc à Toulouse, nous a été demandée par l'Opéra de Marseille et par l'Opéra de Bordeaux. Donc cette production va faire un petit tour du sud de la France avec à chaque fois donc Karine dans le rôle de Norma. Et je suis très heureux pour Anne Delbé qui voit cette production voyager dans toute la France.
Et puis on aura Hervé Niquet à la direction en plus.
Absolument, ça c'est une surprise, mais c'est un répertoire qui l'obsède vraiment, et donc voilà, c'était une belle occasion de le lui faire interpréter.
Oui, on en va retrouver là aussi des têtes et des voix connues, Roberto Scandiuzzi, Robert, et puis quelques autres.
Oui, alors j'entends que ce répertoire-là obsède Hervé Niquet, mais je ne sais pas s'il y est très présent quand même.
Ah ben non, parce qu'il faut que, enfin, il ne peut pas décider lui-même de le faire,
oui,
il faut
qu'une
institution l'invite.
Il en avait très envie.
Voilà, il avait très envie, puis c'est le répertoire de sa formation.
Oui, il est chef
de chant.
Oui, voilà.
Il est chef de chant, il a été chef de chant à l'Opéra de Paris de nombreuses années, et c'est ce répertoire-là, ce grand répertoire romantique qu'il interprétait et qu'il a étudié à l'Opéra avec Caballé, avec Pavarotti à l'époque, etc.
Alors là encore, je ne veux me fâcher avec personne, nous n'allons pas nous priver d'écouter Karine Deshaies dans le grand air de Norma que tout le monde connaît et attend à l'acte 1, Casta Diva. Karine Deshaies chantait Casta Diva, elle est Norma dans la reprise de la production de l'opéra de Bellini, mise en scène par Anne Delbé, lors de 8 représentations au Capitole du 26 mars au 6 avril. Je conseille aussi de vite réserver ses places. Avant-dernier opéra de la saison 24-25 du 16 au 27 mai, Le vaisseau fantôme de Richard Wagner, 6 représentations cette fois-ci. Et c'est une nouvelle production pour laquelle nous allons retrouver deux habitués de l'opéra national du Capitole, Frank Berman à la direction musicale et Michel Faux à la mise en scène. Voilà encore deux, je parle de ceux qui font partie de la famille. Là, on a deux membres de la famille. Là.
Oui, ça c'est sûr. C'est une famille constituée, je veux dire.
Et oui.
Une famille qui se choisit. Puisque je dois dire que tous les deux ont chacun dans sa profession réalisé des parcours absolument extraordinaires au Capitole. Toutes les productions de Michel Faux, Ariane Naxos, Electra et Wozzeck ont été absolument remarquables et correspondent exactement. C'est une des façons de faire la politique que je souhaite avoir pour le Capitole, c'est-à-dire d'abord de n'avoir aucun interdit sur les œuvres que nous présentons, mais de les donner au public de la manière la plus fraternelle qui soit, c'est-à-dire de faire entrer le public dans ces œuvres qui, peuvent ne pas être évidentes. C'était une réussite exemplaire avec Vodsek, que beaucoup de gens sont venus voir quasiment à reculons, et ils sont sortis absolument enchantés par la force de l'œuvre. Donc c'est quelqu'un qui simplement donne l'œuvre au spectateur, et ça c'est très important. Quant à Berman, évidemment, son parcours au Capitole est absolument extraordinaire depuis quelques années. Le dernier épisode, c'était La femme sans ombre, où c'est sans doute une des plus belles choses que j'ai entendues, enfin musicalement, une des plus extraordinaires réussites que j'ai entendues de ma vie de mélomane. Donc c'est un bonheur de le retrouver.
Michel Faux, premier Wagner pour lui.
Oui, premier Wagner.
C'est
pour
ça.
Lui,
hein.
Oui. Et c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure d'Olivier Py, mais aussi bien Olivier Py que Michel Faux ont une passion pour Wagner de leur adolescence. Enfin, ils sont l'un et l'autre, quand ils abordent ce répertoire, très heureux de l'aborder parce que c'est des choses qu'ils connaissent intimement. De même que Michel Faux connaît vraiment par cœur les œuvres de Strauss. On peut croire que c'est exotique, en fait c'est pas du tout exotique. Ils sont exactement dans leur élément, ils connaissent ça par cœur. Ouais. Il faut bien penser que ces grands artistes français ont une culture absolument gigantesque et qu'on peut les imaginer par la télévision, par, je sais pas, cantonnés dans quelque chose, un répertoire comique ou là. En fait il faut aller au-delà des apparences et de ce qu'on nous donne. L'un et l'autre connaissent leur Wozzeck par cœur, connaissent évidemment leur ring par cœur.
Alors on va avoir une très belle distribution une nouvelle fois. Le Hollandais, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sera Alexei Isaev. On aura Marie-Adeline Henry en Santa, Aira Hernandez, qu'on connaît bien, Robert, hein, oui, au Capitole depuis déjà pas mal d'années, sera...
C'est la famille
Eric.
Également. Ouais.
Eric, je pensais que vous penseriez à moi, mais non. Robert, oui. Vaisseau fantôme, ça date aussi, hein, la dernière représentation.
Oui, la dernière représentation, c'est plus récent, c'était il y a une trentaine d'années.
Oui, il y a quand même 30 ans. Quoi.
Voilà, il y a 32 ans exactement. Et c'était José Van Damme qui faisait l'Hollandais.
Formidable. Donc on aura Valentin Thiel aussi parmi les têtes connues, qui sera le pilote de Dalaï.
Ah, voilà un très joli ténor.
Ouais, formidable distribution, ouais. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être encore une très grande production, hein, donc avec Michel Faux à la mise en scène et Frank Berman à la direction musicale.
Et si je peux juste dire, parce que c'est un aspect extrêmement important de notre maison, de Capitole, donc c'est Antoine Fontaine qui fait les décors.
Les décors.
Ce qui veut dire, donc Antoine Fontaine c'est un des derniers grands peintres de décors, il a été pendant un temps surtout connu parce que justement il faisait des productions d'opéra baroque parce qu'il a retrouvé évidemment l'art du décor baroque. Maintenant il fait absolument tous les répertoires, mais quand on a un décorateur, un scénographe comme Antoine Fontaine, ça veut dire que derrière on a des ateliers de premier ordre, et c'est une des caractéristiques de la maison, et je crois que c'est celle qui nous aide à avoir ce succès ces derniers temps, c'est cette force de production et la beauté des productions qui sont, et la qualité des productions qui sont présentées. Quand on voit les costumes de Neguin, le décor de Neguin, tout ça sort de nos ateliers, dont je suis extrêmement fier, parce qu'il y a un artisanat de très très haut niveau. Et cet artisanat, il est évidemment, je crois, une part essentielle de la réussite de nos productions.
Je peux vous le confirmer, parce qu'à chaque fois que j'entends les gens autour de moi quand je vais à l'opéra, ils sont fascinés par la beauté des décors et des costumes. Hein. Robert ?
Oui, alors simplement, mais je ne suis pas très sûr que Christophe Grissi puisse nous répondre, mais enfin, je suis impatient, parce que j'ai encore en tête, et puis ça ne me quittera jamais, le Wozzeck de Michel Faux.
Oui.
Et je me dis, mais quel regard va-t-il porter sur ce vaisseau fantôme ?
Je crois qu'un des génies de Michel Faux, c'est la littéralité. Et si vous prenez sa production d'Electra, par exemple, ce qui lui a parfois été reproché, c'est de en fait, si vous prenez le livret et les didascalies de Hofmannsthal, c'est exactement ce qui est écrit dans les didascalies. Et il ose la littéralité. Je ne dis pas qu'il ose l'illustration, mais il fait confiance en la folie des concepteurs de l'œuvre. Et quand on parle de Strauss et d'Hofmannsthal, on s'adresse à des grands fous, on pourrait dire, à des personnes qui ont repoussé les limites. Et il les accompagne de manière très fidèle. Il obéit d'abord de manière vraiment très 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 concentrée à ce que veulent les créateurs dans l'œuvre qu'ils ont voulu créer. Et je peux vous dire qu'en un sens, il fait la même chose sur le vaisseau fantôme, et que les maquettes que j'ai pu voir présagent d'un spectacle comme on n'en voit plus beaucoup.
Alors, c'est bien, vous en avez assez dit, on ne va pas en dire plus, surtout pas. Donc, le vaisseau fantôme dans la mise en scène de Michel Faux, 6 représentations du 16 au 27 mai, et vous clôturez la prochaine saison du 20 au 29 juin en proposant une nouvelle production d'Adrienne Lecouvreur, l'opéra de Francesco Cilea, dans une mise en scène d'Ivan Stefanuti. La saison s'ouvre avec l'opéra romantique italien et elle se referme donc avec le vérisme italien. La boucle est bouclée, si l'on peut dire. Alors Robert, il me semble aussi qu'Adrienne Lecouvreur, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça au Capitole. Hein.
Oui, alors nous sommes toujours dans cette temporalité d'œuvres qui n'ont pas été données depuis 30 à 40 ans. Et là, en l'occurrence, depuis 36 ans.
Alors, vous avez convoqué une soprano arménienne, oui. Liana Aroutounian, pour le rôle titre, grande spécialiste du rôle.
Oui, elle chante sur les grandes scènes. Et puis, donc, ouais, je suis allé l'entendre il y a quelques années faire ce rôle. C'est tellement enivrant. Donc, grand plaisir à ce qu'elle vienne. Et puis, c'est Adrienne, il faut évidemment des grandes personnalités sur le plateau. Oui. C'est un opéra de stars. Et on en a quelques-unes. Voilà. Et puis, c'est un opéra que j'adore. D'abord, c'est un très bel opéra sur le théâtre et sur l'opéra. C'est un bel hommage. Donc, c'est une belle fin de saison. Et puis, c'est un opéra, je veux dire, c'est sans doute un des opéras les plus voluptueux du répertoire. Parce que le génie mélodique de Chilea est à peu près sans limite. Et puis, donc, dans cette esthétique 1900, c'est-à-dire une esthétique extrêmement généreuse, opulente, comme un Strauss italien, si vous voulez. Il y a vraiment cet amour de la voix féminine qui est incroyable. L'air d'entrée d'Adrienne est extraordinaire. Et puis, des personnages masculins vraiment très, très beaux. Et notamment ce personnage de Michonnet, qui est le baryton, qui est le régisseur, puisque ça se passe dans le milieu du théâtre et à la Comédie française, qui est le régisseur. Et puis, donc voilà, ça, et qui a un rôle absolument bouleversant. Ce sera chanté vraiment par le plus grand titulaire de ce rôle,
Nicolas
Alaïmo. Moi, c'est un opéra que j'adore, qui m'émeut. Et puis, c'est un opéra vraiment éblouissant. Voilà.
Voilà, on aura Roberto Scandiuzzi, encore lui, en Prince de Bouillon, et José Cura en Maurizio.
Roberto Scandiuzzi, qu'on aura également dans Oroveso.
Oui, on l'a aussi.
On ne l'a pas cité à ce moment-là, mais bon, quand même, c'est toujours un grand bonheur de l'avoir sur notre
aussi
scène.
Dans un midi du Capitole, voilà. Donc, il ne faut pas rater ça. Alors, la soprano arménienne Liana Aroutounian, je l'ai dit, est une spécialiste du rôle. Ça va nous permettre de l'écouter dans l'air d'entrée d'Adrienne Lecouvreur à l'acte 1. « Ecco respiro appena, io son l'umile Ancella ». Ecco respiro appena, io son l'umile Ancella, air de l'acte 1 d'Adrienne Lecouvreur, chanté ici par Liana Aroutou.